soir. Bah, attends, si les derniers camarades veulent bien s'asseoir, la conférence de ce soir va commencer. Donc avant tout, je voudrais vous demander d'éteindre vos portables pour débuter le cercle Léon Trotsky de ce soir consacré aux idées de la décroissance. Ce soir se déroule en plein sommet de Copenhague. À cette grande messe de l'écologie, les dirigeants de la planète parleront beaucoup, mais au final, il n'en sortira rien. Car il en va des problèmes écologiques comme de la crise économique. Aucune régulation ne pourra exister tant que la société sera gérée en fonction du profit, c'est-à-dire tant qu'elle sera dirigée par la classe capitaliste. Ce sommet de Copenhague fait couler beaucoup d'encre et il place, plus encore que d'habitude, le courant écologiste sous les feux de la rampe. C'est de l'une des branches de ce courant écologiste que nous allons parler ce soir, la décroissance. Ce courant regroupe des militants, des gens, qui se désignent sous le nom d'objecteurs de croissance ou de décroissants. Leurs opinions sont souvent très diverses, mais ils ont en commun d'estimer qu'on consomme trop, on produit trop, et que l'essentiel des maux qui frappent la planète viendrait de cette surconsommation, de ce qu'ils appellent le productivisme. Nous, communistes, nous pensons que les problèmes de la société viennent d'une certaine organisation sociale, le capitalisme, et qui sont le fruit de la division de la société en classes sociales. Ce sont deux visions radicalement différentes, et même antagonistes. Si le terme de décroissant connaît en effet connaît un certain effet de mode, il surprend et choque aussi bon nombre de gens. Et l'on comprend pourquoi. Le 16 octobre dernier, un organisme de l'ONU annonçait que le nombre d'humains frappé par la famine, avait, pour la première fois dans l'histoire, dépassé le chiffre de 1 milliard. À peu près au même moment, une enquête du Secours populaire révélait que 44% de la population européenne rencontrerait des difficultés pour s'acheter des vêtements convenables, tandis que 35% peinent à se procurer une alimentation saine et équilibrée. Alors, dans ce contexte-là, prôner une réduction de la production et de la consommation paraît stupéfiant. Ah, bien sûr, la plupart des objecteurs de croissance se disent soucieux de la famine et de la misère dans les pays d'Afrique ou d'Asie. Mais ils en mettent une partie de la responsabilité sur le dos des peuples des pays riches. Nous, au Nord, les gavés de l'hyperconsommation, peut-on lire, par exemple, sous la plume de l'économiste décroissant Serge Latouche, les gavés de l'hyperconsommation. Mais de qui parle-t-il? De la grande bourgeoisie? Des banquiers arrosés à l'argent public? Non, bien sûr. De vous, de moi, des salariés, des petites gens qui vont chaque semaine remplir un caddie à l'hypermarché, qui ont une voiture, ou pire encore, un lecteur MP3. À eux, ils prônent, plutôt qu'une illusoire hausse du pouvoir d'achat, je le cite, « l'ivresse joyeuse de la sobriété volontaire ». Les idées de la décroissance gagnent du terrain. On les retrouve, sous une forme ou sous une autre, dans les discours de la plupart des partis politiques de gauche. On les lit dans la presse. On les entend dans la bouche de nombreux jeunes déboussolés par la faillite du capitalisme. On en trouve même des traces dans ce que disent des syndicalistes démoralisés ou certains travailleurs privés de perspectives. Un certain nombre de défenseurs de la décroissance se veulent de gauche. Certains se disent même anticapitalistes. Ils prétendent que leurs idées peuvent permettre de changer le monde. Et ce serait même une solution tant à la crise écologique qu'à la crise économique. Eh bien, pour nous, cette idéologie du renoncement et du recul, même si elle se travestit en mouvement de gauche, voire d'extrême gauche, est une escroquerie. Les idées de la décroissance sont forcément impuissantes. Pour résoudre les problèmes de la société, il est indispensable de raisonner en termes de lutte des classes et de vouloir abattre le capitalisme. Et cela, les décroissants ne le disent jamais. Alors, qu'est-ce que la décroissance ? Quelles sont ses idées essentielles ? En quoi celles-ci sont incompatibles avec les idées communistes ? Pourquoi les idées de la décroissance ont-elles le vent en poupe ? Et quelles autres perspectives l'humanité a-t-elle pour sortir d'un marasme qui est en réalité bien pire que ce que les décroissants dénoncent eux-mêmes? Sur tous ces sujets, je passe la parole à notre camarade Pierre Vendrillon.
Formation politique de gauche qui ne soit allée ces derniers mois de son couplet sur le productivisme, la consommation et le culte de la croissance. La presse a pris le relais en donnant de plus en plus souvent la parole aux différents porte-paroles de ses idées. Le concept est même tellement à la mode que la droite elle-même n'a pas envie d'être en reste. Tout récemment, le ministre Hervé Novelli a par exemple déclaré « La crise que nous connaissons aujourd'hui est beaucoup plus grave qu'une crise économique. C'est la crise d'un modèle, celui de la société de consommation. Ce modèle reposait sur une incitation à consommer toujours plus. » Le MEDEF, lui-même, a consacré à la rentrée un atelier de son université d'été à la décroissance. Mais une décroissance supportable pour le patronat, puisque l'atelier auquel participait le vert Yves Cochet s'intitulait « Pour une décroissance prospère ». Les grandes figures du mouvement écologiste, jusque-là plutôt dubitatif, sont l'un après l'autre en train de découvrir les mérites de la décroissance. Cela a été le cas tout récemment de Cécile Duflot, de Yann Arthus-Bertrand et de Nicolas Hulot. En Italie, en Belgique, aux États-Unis et au Canada, la décroissance connaît de semblables succès. Alors on pourrait considérer tout cela comme de l'agitation politicienne et médiatique, mais tout ce matraquage conduit à influencer peu à peu les consciences. L'influence de ce courant de pensée est aujourd'hui palpable dans certaines couches sociales et dans la jeunesse. Certes, peu de gens se disent clairement décroissants, mais combien de fois n'entend-on pas autour de nous parler de surconsommation, de productivisme et de la fameuse idée selon laquelle, si toute l'humanité vivait comme nous, il faudrait 3 planètes. Qui n'a pas déjà entendu quelqu'un se demander si les RMistes ont vraiment besoin d'une télévision à écran plat, ou entendu des discours plus ou moins méprisants sur les travailleurs pauvres qui claqueraient leur salaire à remplir des caddies chez Auchan? Si nous avons choisi de parler de ces idées ce soir, c'est parce que, oui, elles ont le vent en poupe. Elles attirent des jeunes qui sont à 100 lieues de penser qu'il s'agit là d'idées réactionnaires. De gens qui sont tout à fait convaincus qu'être décroissant, c'est être anticapitaliste. Eh bien, nous voulons montrer justement que ce n'est pas le cas. Si nous comprenons ce qui peut pousser des gens à se tourner vers ces idées, nous sommes néanmoins convaincus qu'il est indispensable pour les communistes révolutionnaires que nous sommes d'en montrer sans indulgence les limites. Alors pour commencer, eh bien, qu'est-ce que la décroissance ? Répondre à cette question relève en fait de la gageure. Dans ce courant rassemble de points de vue divers, divergents, voire contradictoires. La décroissance n'est ni une idéologie, ni une doctrine cohérente. Ce n'est, si l'on en croit ses propres porte-paroles, rien d'autre qu'une idée, un mot. Cette définition plutôt vague permet aux décroissants d'assumer leur étonnante diversité. On trouve des décroissants en effet aussi bien à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite. Certains se réclament de l'anarchisme, d'autres d'un avatar du marxisme. Un Pierre Rabhi, qui faillit être candidat à l'élection présidentielle de 2002, est quant à lui ouvertement mystique. Et si l'on tente de se faire une idée de ce qu'est la décroissance en lisant les ouvrages de ses penseurs et sa presse, on trouve véritablement tout et son contraire. Nous ne crierons jamais « Vive la crise !» s'écrit le décroissant Vincent Chesnais. Forte parole, mais il faut croire qu'il n'est pas d'accord avec son compère Serge Latouche, qui écrivait lui sans complexe en 2007 « Il est à souhaiter, au Nord, que la crise arrive à temps pour laisser sa chance à notre Afrique. » Les origines théoriques de la décroissance sont multiples. Nous ne nous attarderons pas longuement ce soir sur ces origines, préférant discuter des idées défendues par les décroissants d'aujourd'hui. Mais disons que ces idées, sous leur forme actuelle, remontent aux années 1960 et 1970. Le mot de décroissance est tiré d'un ouvrage de l'économiste américain Georgescu Rögen, paru en France en 1979. Il reprenait des idées issues de rapports publiés quelques années auparavant, notamment la lettre Mansholt, puis le rapport du Club de Rome intitulé « Halte à la croissance ». Bon, ces rapports reprenaient en fait des idées bien plus anciennes. Cela fait plus de deux siècles qu'il existe, dans le sillage de Thomas Malthus, dont nous reparlerons, des gens qui pensent que, comme le disait Malthus lui-même, nous sommes trop nombreux au banquet de la nature. Ah, les décroissants actuels ne disent pas exactement que nous sommes trop nombreux au banquet de la nature, mais que la table du banquet est trop petite pour tous, ce qui, on en conviendra, revient au fond exactement au même. Les décroissants, ils revendiquent aujourd'hui un héritage intellectuel bien plus vaste. Pour Paul Ariès, en effet, l'un d'entre eux, la décroissance met ses pas, je cite, « dans ceux de Socrate, du judaïsme, du catholicisme, de la philosophie des Lumières, des ludites, de Marx, de Proudhon, de la Commune, de Freud et de la Résistance. » Alors, réussir à mettre ses pas à la fois dans ceux de la religion catholique et dans ceux des Lumières nécessite déjà une certaine souplesse, mais mettre côte à côte le ludisme et Marx relève là carrément du contorsionnisme. En effet, le mouvement ludite consistait à l'aube de la révolution industrielle à pousser les ouvriers à détruire, à briser les machines, considérées comme porteuses de chômage. Marx, lui, pensait que les machines étaient porteuses du progrès de la société, à condition que celle-ci soit réorganisée sur d'autres bases. Alors se réclamer en même temps de ces deux courants en dit long sur le sérieux de l'auteur. Mais il est vrai que Paul Ariès parle d'autant plus facilement de Marx qu'il ne l'a probablement pas lu. Sans cela, il aurait perdu une occasion d'étaler son ignorance en écrivant que, je cite, « Marx est mort trop tôt avant de commencer l'analyse de l'État ». Lorsque l'on discute avec les décroissants, il faut donc choisir ses interlocuteurs. Nous ne discuterons ce soir ni de Pierre Rabhi et de ses élucubrations mystiques, ni de la décroissance d'extrême droite nationaliste d'Alain de Benoît, ni des théories d'un Ivan Illich sur le caractère néfaste de l'école, de l'hôpital et de la médecine. Et même si le rire y perdra un peu, nous ne commenterons pas les expériences alternatives des intégristes de la décroissance qui prônent d'habiter dans des yourtes ou de remplacer le tout à l'égout par des cultures de vers de terre. Bon, évidemment, il est tentant de se moquer de cet aspect caricatural et souvent ridicule de la décroissance et des préoccupations de ses adeptes. Les forums Internet fourmillent de débats sur des sujets aussi fondamentaux que « Quel dentifrice pour les décroissants ?» ou « Je suis adepte de la simplicité volontaire, quel shampoing dois-je utiliser ?» À ce sujet quand même, si la question vous taraude, sachez tout de même que les débatteurs se divisent clairement en deux camps, ceux qui préconisent le shampoing au savon d'Alep, mais uniquement s'il n'est pas fabriqué à Alep, car Alep est en Syrie et le transport est anti-écologique. Et ceux qui pensent, non sans une certaine logique, que la solution la plus décroissante est tout simplement de se raser le crâne. Sérieusement, nous avons donc choisi de discuter des idées politiques de la décroissance, celles qui sont défendues par des militants qui, dans leur discours du moins, se disent de gauche ou d'extrême gauche et se targuent de vouloir changer la société. Ceux qui animent le journal La Décroissance en font partie, puisqu'eux-mêmes rejettent les farfelus qui donnent une image caricaturale de leur mouvement. Ceux-là parlent d'en finir avec le capitalisme, alors comme c'est également le but que nous nous fixons, l'exposé de ce soir est presque entièrement consacré à discuter des idées des décroissants anticapitalistes, c'est-à-dire notamment celle du publicitaire repenti Vincent Chesnais, du politologue Paul Ariès ou de l'économiste Serge Latouche, que j'ai déjà mentionné tous les trois. Disons dès maintenant que nous partageons bien des critiques des décroissants contre tel ou tel aspect de la société capitaliste. En fait, il serait d'ailleurs plus juste de dire que ce sont les décroissants qui partagent bien des critiques des communistes, car ces critiques sont contenues dans les idées marxistes depuis leur naissance. Si les révolutionnaires sont révolutionnaires, c'est bien parce qu'ils trouvent insupportable le fonctionnement quotidien de la société, et pas seulement parce que celle-ci est profondément inégalitaire. Beaucoup des problèmes pointés du doigt par les décroissants, comme l'épuisement des ressources naturelles, le gaspillage effarant de richesses, l'aliénation au travail, les stratégies des capitalistes pour arriver à transformer n'importe quoi en marchandises vendables, l'individualisme, la dissolution des liens sociaux, etc. Tout cela était déjà analysé par Marx et Engels il y a plus de 150 ans comme des conséquences du capitalisme. Aucun de ces problèmes n'est réellement nouveau, à commencer par celui de l'épuisement des matières premières et des ressources fossiles. Dans Le Capital, paru en 1867, Marx écrivait déjà « La production capitaliste ne développe la technique et la production qu'en épuisant en même temps les deux sources d'où jaillissent toute richesse, la terre et le travailleur. » Alors c'est une évidence, oui, le capitalisme fait courir à l'humanité des dangers mortels. Nous ne sommes pas des optimistes béats persuadés que quoi qu'il arrive, l'humanité s'achemine tranquillement vers l'avenir radieux du socialisme. Pour passer au socialisme, il faudra des révolutions. Et rien ne dit, hélas, que le capitalisme n'aura pas réussi à détruire une bonne partie de la planète avant que ces révolutions n'éclatent. Socialisme ou barbarie, s'écrièrent Rosa Luxembourg en 1915 face à l'horreur de la Première Guerre mondiale. Eh bien, cette alternative reste plus que jamais d'actualité. Les ravages du capitalisme sur l'environnement, la raréfaction des ressources, entre autres, sont peut-être des questions qui amèneront l'humanité vers de nouvelles guerres, de nouveaux cataclysmes mondiaux dont nul ne sait s'ils ne conduiront pas les humains, comme dans les pires cauchemars des auteurs de science-fiction, à vivre un jour terrés comme des taupes dans des sous-sols parce que l'atmosphère sera devenue irrespirable et que la vie aura disparu de la surface de la Terre. Albert Einstein a dit, paraît-il, après Hiroshima, « Je ne sais pas comment la Troisième Guerre mondiale sera menée, mais je sais comment le sera la quatrième, avec des bâtons et des pierres. » Eh bien, nous sommes révolutionnaires précisément parce que nous voulons un autre avenir à l'humanité. En fait, nous pensons même que les décroissants dans leur critique de la société sont souvent bien en dessous de la réalité. Tout simplement parce que les penseurs de la décroissance n'ont qu'une vision très partielle de la société, celle qui commence et s'arrête à leur porte. Cela donne à leur critique un caractère souvent dérisoire. On trouve, par exemple, souvent, dans les ouvrages de la décroissance, l'expression « il faut fuir l'enfer urbain ». De quel enfer urbain parle-t-on ? Bogota ? Bombay ? Lagos ? Non ? Paris. On conviendra que même s'il y a trop d'embouteillages sur le périphérique, la notion d'enfer urbain est tout de même assez relative dans une ville alimentée, chauffée, éclairée, munie d'un réseau de tout à l'égout et de transports en commun. Et il en va de même dans tous les sujets abordés par les décroissants. On est également frappé de constater à quel point leur critique est toujours déclinée au présent, comme si les problèmes de la société avaient commencé il y a 10 ou 15 ans, lorsque les risques de réchauffement climatique ont commencé à être dénoncés. Et ces critiques perdent beaucoup de leur force de frappe lorsque l'on constate que les décroissants déplorent avec bien plus de virulence le sort des petits bourgeois des pays riches que celui des gamins qui meurent de faim en Afrique ou des ouvriers de ces mêmes pays riches. On lit par exemple, sous la plume de Latouche ou de Chesnais, des descriptions de la vie cauchemardesque de ces cadres souffrant d'addiction au travail, accrochés à leur smartphone et à leur ordinateur portable, description qui fait dire à Serge Latouche, je cite, « Jamais l'humanité n'avait atteint un tel degré de déréliction, c'est-à-dire d'abandon. Jamais, vraiment. Ni dans la boue des tranchées de Verdun, ni dans les trains qui menaient à Auschwitz, ni sur les terres d'Afrique décimées par la famine et les guerres. Décidément, chacun voit midi à sa porte, et notre porte en la matière n'est visiblement pas la même que celle des décroissants. » sur les remèdes à apporter à ces catastrophes. Car s'ils ont évidemment raison de dénoncer les méfaits de la société capitaliste, ils s'appuient, nous allons le voir, sur des raisonnements qui les rendent incapables de mettre fin à ces méfaits. L'idée de base de la décroissance, une des seules d'ailleurs sur lesquelles tous ces militants sont d'accord, se résume dans la formule « Une croissance infinie est impossible dans un monde fini ». Il faudrait donc se détourner de la volonté de produire toujours plus et, disent-ils encore, se désintoxiquer de la croissance. Au lieu de rêver à posséder plus, à consommer plus, il faudrait cesser de courir après les biens matériels qui désocialisent et se tourner vers les liens sociaux, ce qui est résumé dans la formule « moins de biens, plus de liens ». La solution serait donc de réduire notre consommation. Environ des deux tiers pour la France, s'avance carrément Serge Latouche, sur la consommation des deux tiers. Dans le même temps, il faudrait rompre avec la recherche de la vitesse, ralentir et aller vers une relocalisation générale des activités humaines. Relocaliser l'agriculture, relocaliser la production de marchandises, réduire le plus possible les transports, rompre avec la production industrielle et mettre en avant l'artisanat et le commerce de proximité. Paul Ariès écrit dans son livre « Décroissance ou barbarie », je le cite, « Il faut casser la société productiviste, c'est-à-dire détruire la société industrielle. Les ressources de la planète s'épuiseraient donc parce que nous consommons trop, et de cela, tous sont coupables, du moins dans les pays riches. La décroissance ne connaît pas de division de la société en classes, de différence entre exploiteurs et exploités, entre salariés et capitalistes, même pas entre riches et pauvres, tous sont regroupés dans la même catégorie des hyperconsommateurs. Pour que l'on en soit vraiment bien convaincu, Paul Ariès écrit « Nous n'exonérons pas la consommation ordinaire des gens ordinaires. Celui qui utilise une voiture et qui, se faisant, pollue, est donc, selon eux, aussi responsable que le trust qui fait fabriquer ses voitures ou celui qui fait de juteux profits grâce au pétrole. Cette philosophie du « tous coupables » est totalement assumée par les décroissants qui n'hésitent pas à rendre les consommateurs ordinaires, c'est-à-dire pour l'essentiel les travailleurs, responsables de l'exploitation du tiers-monde, voire de la famine. Sachez par exemple que si vous avez une voiture, eh bien, vous êtes rien moins qu'un esclavagiste conscient. C'est ce qu'écrit Vincent Chesnais, je cite. 800 millions d'automobilistes sont prêts à réduire définitivement en esclavage 2 milliards de paysans pauvres, à les empêcher de cultiver de quoi se nourrir, dans le but de les obliger à produire des plantes pour les agrocarburants. Mais pourquoi donc les travailleurs des pays riches seraient-ils partisans de vouloir réduire les autres en esclavage? Eh bien, parce qu'ils sont idiots. Simplement. Les textes de la décroissance, bien souvent, transpirent le mépris social par tous les pores. On y trouve sans cesse des références aux masses crétinisées, aux masses abruties. Une des blagues préférées du journal de la décroissance est d'orthographier le mot consommateur avec un trait d'union au milieu, consommateur. Quand on consomme, on est un con. Et assez logiquement, certains décroissants en viennent à juger avec le même mépris les travailleurs et les militants qui les défendent, comme sur ce site internet décroissant où on peut lire que « lutte ouvrière » nous représente ce que le mouvement ouvrier dégénéré a produit de pire. Ils idéalisent tellement les ouvriers, à lutte ouvrière, ils idéalisent tellement les ouvriers qu'ils défendent tout, comme par exemple les congés payés, où l'on descend en transhumance bovine se torcher au pastis dans les HLM du bord de mer. Alors, pour finir ce tour d'horizon, ajoutons enfin que la décroissance milite contre la notion de progrès et contre la science. Serge Latouche écrit clairement sur ce sujet, je cite, « La décroissance repose sur la critique du développement, de la croissance, du progrès, de la technique et finalement de la modernité. » Vous avez bien entendu la critique du développement. En effet, l'un des thèmes favoris de la décroissance est de critiquer le développement en général et celui des pays pauvres en particulier. Dans son livre « Survivre au développement », qui est déjà tout un programme, Latouche prétend que les pays riches voudraient forcer les pays pauvres à se développer, en quelque sorte contre leur gré, en balayant leur prétendue tradition anti-consumériste et leur fameuse croyance ancestrale. Le développement consisterait donc à faire entrer en contrebande dans les pays pauvres le démon de la consommation. Donc appel à une baisse de la production et de la consommation, relocalisation, désindustrialisation, rejet du progrès et de la science, voilà résumé à grands traits les idées de base de la décroissance. Alors, la décroissance se définit avant tout, on l'a vu, comme une doctrine anti-productiviste, donc qui combat ce qu'elle appelle la croissance pour la croissance. Ce mot de productivisme connaît un certain succès. Il n'a pourtant pas beaucoup de sens quand on l'applique de façon générale au capitalisme. Un simple dictionnaire définit le productivisme comme un système économique dans lequel la production est donnée comme le but premier. Dit comme ça, il apparaît évident que la société capitaliste n'est certainement pas en tout lieu et en tout temps un système productiviste. Ce n'est pas la production qui est le but premier du capitalisme, c'est le profit. Et si pour faire des profits, les capitalistes doivent ne pas produire, ils sont capables de le faire. Il faudrait quand même expliquer à tous ceux qui crèvent de faim sur trois continents et qui manquent de tout, logements, vêtements, médicaments, que le capitalisme est trop productiviste. Le capitalisme, il ne produit qu'en fonction du marché solvable, c'est-à-dire en fonction de ses possibilités de vendre. Là où il y a un marché, c'est-à-dire des consommateurs ayant les moyens d'acheter, le capitalisme peut se montrer productiviste. Là où il n'y en a pas, bien il ne l'est pas. Si réellement le but premier était la production, eh bien il produirait plus de nourriture, plus de médicaments, plus d'outils agricoles, bref, tout ce qui manque cruellement aux pays pauvres. Le fait qu'il existe sur cette planète 1 milliard de personnes qui souffrent de la famine et 2 milliards qui n'ont pas accès au minimum de confort qu'offre l'eau courante devrait suffire à faire un sort à la théorie d'un capitalisme productiviste. Il est de la même manière absurde de prétendre que le capitalisme serait, encore une expression du décroissant, drogué à la croissance. Le capitalisme n'est pas drogué à la croissance, il est là encore drogué au profit, ce qui n'est pas pareil. Réduire le capitalisme à un système tendant vers une croissance infinie est non seulement réducteur, mais surtout faux. Bien sûr, la concurrence capitaliste impose aux bourgeois d'investir une partie de leurs profits dans le développement de leurs outils de production. Mais dans certaines périodes seulement. Dans les périodes où les capitalistes ont l'espoir d'augmenter leurs profits en élargissant leur marché. Mais que ces marchés se réduisent, que la société entre en période de crise, alors les capitalistes vendent moins et réduisent alors leur production, parfois de façon considérable. Faut-il rappeler qu'entre 1929 et 1932, la production industrielle américaine a chuté de 50%. Et ce n'est que grâce à de telles périodes de décroissance économique, c'est-à-dire de crise, qu'une partie des capitalistes parviennent à rétablir leurs profits, tandis que d'autres, moins solides, disparaissent purement et simplement. Dans cette société irrationnelle, les crises économiques, la décroissance de la production et ses conséquences en matière de chômage et de misère sont bien les seuls régulateurs de l'économie. Malgré ces aspects, qui sont profondément inhérents au capitalisme lui-même, ce système a, pendant toute une période historique, révolutionné la planète et formidablement accru la quantité de richesses produites par l'humanité. Ah, sans jamais parvenir, ni même chercher à satisfaire les besoins humains, certes, mais d'une façon tout de même jamais vue jusque-là. C'était à l'époque de la révolution industrielle. Mais depuis, le capitalisme est entré au XXe siècle dans une nouvelle phase où les progrès économiques n'ont pas cessé, mais où ils ont été compensés par des périodes de destruction massive de richesses, parmi lesquelles tout de même 2 guerres mondiales, d'innombrables guerres régionales et crises locales. Rien ne nous dit que l'avenir du capitalisme ne soit pas dans une longue période de stagnation, de croissance zéro, voire négative. Personne ne le sait, parce que personne ne contrôle ce système totalement chaotique. Mais l'histoire du capitalisme récent montre qu'en permanence, le système alterne entre production de richesses et destruction de richesses. Le problème n'est donc certainement pas de s'en prendre à la croissance, mais précisément de s'attaquer à ce caractère irrationnel et incontrôlé du capitalisme dont le profit est le seul moteur, de supprimer la propriété privée parce que c'est le seul moyen de rationaliser la production et l'économie. Le débat sur la consommation est aussi biaisé que celui sur la croissance. D'abord, parce que dans le terme de consommation, on peut absolument tout mettre, le bol de riz d'un affamé de Bombay ou le yacht géant de Bolloré. Dans un pays comme le nôtre, où l'on vient tout de même d'apprendre que les chiffres de vol de nourriture sont en très forte hausse, il paraît tout de même stupéfiant d'entendre des militants dénoncer la consommation sans faire de différence entre les consommateurs, c'est-à-dire entre les classes sociales. Mais lorsque les décroissants en appellent à une réduction volontaire de la consommation, cela signifie qu'ils considèrent cette consommation comme un libre choix pour la population. Eh bien, c'est une lourde erreur. La consommation est bien sûr avant tout une affaire de survie de l'espèce. Il faut bien manger pour vivre. Mais elle n'est pas que cela. Elle est aussi un rapport social et économique. Dans le marché capitaliste, la consommation des travailleurs est indispensable aux capitalistes, parce que ce n'est qu'en vendant leur production qu'ils réalisent leur profit. Il est donc indispensable aux capitalistes de vendre leur production, que celle-ci soit utile ou pas, nuisible ou pas, peu importe. Ce n'est pas la consommation qui règle la production sous le capitalisme. C'est la production elle-même qui oriente, voire détermine la consommation. Les capitalistes, ils fabriquent des voitures et des chars d'assaut, des vaccins et des fusils, des céréales et du maquillage, et puis il leur revient par la suite de convaincre, de gré ou de force, les consommateurs d'acheter leurs marchandises. D'où la débauche de moyens qu'ils consacrent à la publicité, à la création de modes plus ou moins artificiels, voire à la fabrication de produits dont l'obsolescence, c'est-à-dire la vitesse d'usure, est artificiellement accélérée. Cela représente indiscutablement un gaspillage révoltant de moyens et de travail social. Sans compter le gaspillage encore plus absurde qui découle de la concurrence entre les différentes entreprises capitalistes. Mais prétendre s'attaquer à cette question du gaspillage sans remettre en cause la propriété privée des moyens de production et la mainmise des capitalistes sur la production industrielle, eh bien cela revient encore une fois à s'attaquer aux effets et non aux causes. En dehors de cela, pourquoi devrions-nous être choqués par la hausse de la consommation? Je ne parle pas évidemment de la consommation des armes, qui représente aujourd'hui un marché de 1200 milliards de dollars par an, mais de la consommation des classes populaires. Si l'on en croit un rapport que vient de publier l'INSEE sur 50 ans de consommation en France, la consommation a augmenté dans ce pays entre 1960 et 2007 de 2,5% par an. Dans les budgets des ménages, de nombreuses mutations se sont opérées, ce qui n'a en soi rien de surprenant ni de critiquable. Ainsi, la part de l'alimentation est-elle passée dans cette période de 38% à 25% du budget des ménages, ce qui signifie, et c'est tout de même tant mieux, que la France n'est plus considérée comme un pays pauvre. Par exemple, en Roumanie aujourd'hui, ce chiffre s'élève à 40%. Cela signifie-t-il que nous serions, comme le dit Latouche, des gavés de l'hyperconsommation? Selon l'INSEE, le budget nourriture des ménages français atteint aujourd'hui 2640 euros par an, c'est-à-dire 7,2 euros par jour. Et c'est une moyenne, donc le terme de gavage paraît ici légèrement exagéré, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut être aveugle pour ne pas voir que la croissance industrielle des années d'après-guerre a permis en France, par exemple, l'éradication des bidonvilles et d'atteindre aujourd'hui un taux d'équipement en salle de bain ou en sanitaire de 97% des ménages. Pour ne pas voir que les ménages populaires mangent aujourd'hui infiniment mieux qu'ils ne mangeaient avant-guerre. Alors s'il est indispensable de critiquer les méthodes qui ont permis cette amélioration du niveau de vie, il est en revanche ridicule de la dénoncer. Mais c'est pourtant ce que font les objecteurs de croissance. Ils ont une façon choquante de glorifier le passé, une sorte de paradis perdu dont la prétendue surconsommation nous aurait chassé. Les pauvres d'avant, ils étaient pauvres, vraiment pauvres. Est-ce que c'était mieux? À l'époque où les ouvriers n'avaient ni l'eau courante, ni les sanitaires, ni les moyens de manger de la viande plus d'une fois par semaine. Aujourd'hui, rendez-vous compte, tous les travailleurs, même archi-pauvres, écrit un décroissant, même archi-pauvres, ont une télévision. Voire même, comble du comble, une télévision à écran plat. Il faut expliquer ici que les décroissants ont un problème avec les télévisions à écran plat. On ne sait pas trop pourquoi, mais le fait de voir des télévisions à écran plat dans les foyers populaires, ça les met très en colère. Chez les riches, moins. Ce sont les pauvres qui démontrent toute leur crétinisation en dépensant leur argent pour de tels gadgets. Non. On touche là finalement au cœur du problème. On peut toujours dénoncer les méfaits de la surconsommation et appeler les gens à ne consommer que ce qui est nécessaire. Mais c'est une notion très subjective. Qu'est-ce qui est nécessaire dans une société donnée, à un moment donné? À partir de quand, de quoi consomme-t-on trop? Comme selon les décroissants, les masses sont trop bêtes pour faire ce choix elles-mêmes, il ne reste plus aux décroissants qu'à fixer les règles eux-mêmes. Par exemple, peut-être en suivant les préceptes de Serge Latouche, qui propose d'instaurer, je le cite, de forts impôts, type TVA, sur la consommation des produits dont les prix relatifs continueraient de baisser. Comme ça, ce sera parfait. Les riches pourront continuer à se payer des produits de bonne qualité, les fameux écrans plats et tout le reste, pendant que les plus pauvres se contenteront de vieilles télévisions qui font mal aux yeux, voire de pas de télévision du tout. C'est d'ailleurs une des revendications principales de la décroissance, d'appeler les gens à jeter leur télévision, sous prétexte que celle-ci ne serait qu'un instrument à décérébrer et à crétiniser. Ah, voilà qui est facile à dire quand on est prof de fac, comme Ariès ou Latouche, et que l'on a mille fois les moyens d'accéder à toutes les autres formes de culture. Mais ne pas voir que la télévision est probablement aujourd'hui le moyen le plus populaire de diffuser la culture, c'est faire preuve d'un aveuglement profond. La culture, oui. Les décroissants pensent-ils vraiment que les masses du début du XXe siècle, qui n'avaient pas la télévision, étaient plus cultivées que celles d'aujourd'hui? Que lorsque la messe du dimanche était la seule distraction dans les villages, la situation culturelle était meilleure? Mais le simple fait d'avoir une télévision, de pouvoir ne serait-ce que regarder le journal télévisé tous les jours, c'est l'objet de toutes les railleries chez les décroissants. Parce qu'ils ne se rendent pas compte à quel point cela permet de sortir de son petit univers, de comprendre que l'on appartient à un monde dont les frontières ne s'arrêtent pas à celles du village, de découvrir la vie, les luttes, l'existence même des autres. Ils ne le comprennent pas parce que eux, encore une fois, ils ont les moyens de faire autrement. Et de ceux qui n'ont pas ces moyens, bien, ils n'ont que faire. Oui, bien sûr, la télévision diffuse bien des âneries. Elle véhicule les idées, les préjugés de la bourgeoisie, quand elle ne s'abaisse pas au niveau d'un instrument de propagande pour les gouvernements qui passent. Mais elle diffuse aussi l'Odyssée de l'espèce, qui a permis à 8,7 millions de téléspectateurs de découvrir le darwinisme. Alors ce n'est pas dans l'instrument qu'est le défaut, mais dans l'usage qui en est fait. S'en prendre à la télévision parce qu'elle diffuse aussi Star Academy, c'est à peu près aussi ridicule que de dénoncer l'imprimerie sous prétexte qu'elle a permis de diffuser les œuvres complètes de l'astrologue Élisabeth Tessier. En réalité, toute l'idéologie des décroissants consiste à glorifier la pauvreté et le dénuement, à les prêcher même, à faire croire aux gens que la pauvreté, qu'ils appellent pudiquement ou hypocritement frugalité, libère l'homme. Les livres et la presse des décroissants regorgent de citations lénifiantes de Gandhi du genre « Il faut un minimum de bien-être et de confort, mais passer cette limite, ce qui devait nous aider devient source de gêne. » C'est donc tout naturellement qu'ils en arrivent à glorifier les sociétés primitives. « Il faut renouer avec l'abondance perdue des sociétés de chasseurs-cueilleurs », écrit Serge Latouche. Et pire encore, à faire des sociétés misérables de l'Afrique actuelle une sorte de paradis à protéger à tout prix contre le chantre du développement. Serge Latouche exalte dans ses livres la merveilleuse inventivité de ces Africains capables de tout bricoler, eux qui ne sont pas encore des assistés de la société de consommation. La spiritualité qui en découle, le sens de l'entraide, les liens communautaires, la capacité à se contenter de ce qu'on a et d'être heureux quand même. Que les liens communautaires, l'entraide et la solidarité soient très développés par la force des choses dans un certain nombre de sociétés pauvres, ouais, c'est une réalité. Ce sont des qualités humaines que le capitalisme cherche d'ailleurs partout à détruire, en transformant le monde en une jungle gouvernée par la loi du plus fort. Mais penser qu'il faille retourner à la pauvreté pour retrouver ces qualités humaines, c'est faire preuve de beaucoup de mépris et de bien peu de confiance dans l'humanité. Être communiste, c'est justement œuvrer pour que ces liens se recréent, mais pas sur la base d'une aggravation de la pauvreté. Nous faisons assez confiance à l'humanité pour penser que cela pourra exister sans qu'il y ait besoin pour cela d'habiter dans un bidonville. J'ai l'air d'exagérer en parlant de bidonville, et bien hélas, non. dans un numéro spécial du Courrier international consacré à la décroissance. On trouve un article du Boston Globe qu'un journaliste visiblement très décroissant a intitulé « Les bidonvilles, une bonne leçon d'urbanisme ». Le journaliste écrit « Les bidonvilles possèdent des points forts et peuvent être riches d'enseignements en matière d'urbanisme, esprit communautaire, respect de l'environnement, inventivité. La lutte pour la survie y favorise une créativité débordante. » Débordante, en effet. Il y a aujourd'hui 1 milliard d'humains qui croupissent dans ce que le géographe américain Mike Davis appelle des décharges humaines. Des villes de tôle et de carton, construites sur des failles sismiques, au bord de lacs empoisonnés, à l'ombre des usines chimiques, parfois même au flanc des volcans. Des villes où, selon son expression, les gens vivent littéralement dans la merde, parce qu'il n'y a aucun moyen d'évacuer les milliers de tonnes d'excréments humains qui jonchent les rues, les cours, les toits des maisons. Inventivité, esprit d'entreprise, bien sûr, comme à Nairobi par exemple, où Davis décrit avec un humour noir les petits métiers urbains innovants, comme ceux de nettoyeurs de vitres de voitures, gamins de 10 ans qui brandissent dans une main des excréments humains prêts à les jeter par la fenêtre des voitures pour forcer les conducteurs à payer le nettoyage de leur pare-brise. La ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, ne serait-elle pas après tout le rêve de Serge Latouche ? Pas d'aliénation par le travail. Moins de 5% des 6 millions d'habitants y ont un salaire. Redécouverte de la petite agriculture relocalisée, les habitants ne survivent que grâce à des potagers misérables. Pas de voiture. Il est impossible à Kinshasa, si l'on n'habite pas les quartiers riches, de trouver la moindre goutte d'essence. Ah, certes, un adulte sur 5 est séropositif, mais voilà au moins des gens qui ne sont pas soumis au diktat de la médecine occidentale consumériste. Avec en prime, ce qui n'est pas à négliger, un véritable renouveau de la spiritualité et des savoirs traditionnels. Les malades s'en remettent au marabout ou à l'un ou l'autre des guérisseurs pentecôtistes de l'une des quelques 2000 sectes religieuses récemment constituées. Nous avons dit plus haut que Serge Latouche attendait impatiemment la crise pour préserver l'Afrique. Eh bien, la crise est là. Les peuples des pays riches s'appauvrissent et pendant ce temps, les habitants des bidonvilles continuent de moisir dans leurs propres déchets.
Pauvres, tous coupables. Mais
Le raisonnement des défenseurs de l'empreinte écologique pêche pour bien d'autres raisons. D'abord, il s'appuie sur des présupposés parfaitement irréalistes dans la société actuelle. Si tous les habitants de la planète vivaient comme des Américains, s'agirait-il d'une perspective à court terme ? Voilà qui dénote une bien grande confiance dans le capitalisme. Si tous les Africains consommaient comme des Français, mais les défenseurs de cette notion sont-ils au courant qu'en Éthiopie et au Soudan, 99,4% de la population urbaine vit dans des bidonvilles ? Alors, et ce n'est évidemment pas pour nous réjouir, de telles perspectives ne sont malheureusement pas pour demain. Au-delà de ça, la principale critique que l'on puisse faire à ce type de raisonnement est son caractère totalement atemporel, ne tenant aucun compte de l'évolution des techniques et de la productivité. On calcule, par exemple, l'empreinte écologique agricole en tenant compte des rendements moyens actuels. Mais calculer ainsi suppose que l'on pense que ces rendements n'évolueront plus. Or, il faut rappeler que la différence de rendement entre une exploitation agricole où le cultivateur n'utilise que des outils manuels et une exploitation utilisant engrais, sélection des semences et machines est de 1 à 2000. 1 hectare, 1 tonne de céréales par hectare dans le premier cas, 2000 tonnes dans le second. Alors appliquer les meilleurs rendements possibles à toutes les terres agricoles bouleverserait évidemment tous les calculs de l'empreinte écologique. Il en va de même pour l'énergie. Chaque nouvelle découverte dans le domaine de l'énergie permet une augmentation considérable de la productivité énergétique, c'est-à-dire du rendement. Il suffit de dire qu'un seul kilogramme d'uranium a le même rendement que 10 000 kilogrammes de charbon ou 7 000 kilogrammes de pétrole. Alors, à l'époque où il n'y avait que le charbon et le pétrole, où l'énergie nucléaire n'existait même pas en rêve, on aurait pu faire tous les calculs d'empreinte écologique que l'on voulait, on aurait certainement abouti à des projections prévoyant la nécessité de 10, 20 ou 100 planètes pour continuer le développement. Il ne s'agit naturellement pas pour nous de nier la nécessité de faire des économies d'énergie, ni de diminuer le gâchis monstrueux que représente le système capitaliste. Évidemment que pêcher des crevettes au Danemark, les faire décortiquer en Thaïlande et les faire revenir en Europe pour les vendre n'a socialement et écologiquement aucun sens. Évidemment que construire des logements HLM qui sont de véritables passoires thermiques capables d'envoyer à l'extérieur jusqu'à 30% de la chaleur produite est une aberration. Évidemment même que brûler une ressource aussi rare et précieuse que le pétrole dans des automobiles est une stupidité. Mais c'est l'organisation sociale qui est stupide. La faute n'en est pas aux consommateurs de crevettes, aux habitants de logements sociaux et aux automobilistes qui n'ont pas le choix, mais à la cupidité des trusts de l'agroalimentaire, du bâtiment, de l'automobile et du pétrole, et par-dessus tout, à un système qui fait de cette cupidité la vertu suprême. En matière d'énergie, tout particulièrement, les prévisions des écologistes et des décroissants sont empreintes d'un pessimisme qui démontre surtout leur manque de confiance dans les possibilités de la recherche scientifique. Il prévoit la fin des ressources pétrolières pour bientôt, 2050 peut-être. Enfin, de toute façon, ils n'en savent strictement rien, pas plus que nous, puisqu'en la matière, les seules données fiables sont aux mains des trusts du pétrole, qui se gardent bien de les rendre publiques pour pouvoir à leur guise jouer sur les prix. Pour d'autres matières premières, les prévisions sont plus ou moins fantaisistes. Donc l'épuisement viendrait dans 31 ans pour l'uranium, 63 ans pour le gaz et même 130 ans pour la bauxite. Précisons entre parenthèses que le rapport du Club de Rome, publié en 1972, prévoyait la fin du mercure en 1983, de l'or en 1984, du pétrole en 1992 et de l'uranium avant l'an 2000. Bon. Mais au-delà, comment peut-on tirer des conclusions de tels chiffres ? Qui a en effet la moindre idée de ce que seront les possibilités techniques de l'humanité dans 31 ans, 63 ans, voire 130 ans ? Pour le mesurer, il suffit simplement de jeter un petit coup d'œil vers l'arrière, il y a 130 ans, c'est-à-dire en 1879. On ne maîtrisait pas encore l'ampoule électrique, et on ne connaissait encore ni la voiture, ni l'avion, ni les télécommunications, ni évidemment le nucléaire ou l'électronique. Il y a 63 ans, en 1946, les ordinateurs n'étaient que des machines géantes et balbutiantes, occupant des surfaces de plusieurs dizaines de mètres carrés et tout juste capables de réaliser les 4 opérations arithmétiques. Il y a 30 ans, personne ne connaissait ni les ordinateurs individuels, ni les téléphones portables, ni Internet. Et rappelons les scientifiques eux-mêmes, souvent autrement moins pessimistes que les écologistes, prévoyaient qu'il leur faudrait au moins 20 ans pour cartographier le génome humain. Il ne leur en a fallu que 3. Alors la science est un domaine où il faut être prudent lorsqu'on fait des prévisions. Sinon, on risque fort de se rendre aussi ridicule que ce journal de vulgarisation scientifique qui écrivait en 1949 « Les ordinateurs du futur ne pèseront jamais moins d'une tonne et demie ». Heureusement pour l'humanité, la production d'énergie ne s'arrêtera certainement pas le jour où la dernière goutte de pétrole aura été brûlée. D'ici là, quelles technologies nouvelles auront enfin été maîtrisées? La fusion des atomes d'hydrogène, qui permettrait de créer de l'énergie à partir de l'eau? La récupération et l'exploitation des hydrates de méthane, qui couvrent le fond des océans et dont les réserves sont très supérieures à celles du pétrole? Les nanotechnologies permettront-elles de multiplier par 6 ou par 8 le rendement des panneaux solaires? Sera-t-on même capable d'installer des panneaux solaires dans l'espace pour récupérer plus d'énergie? Ce sont en tout cas des pistes sur lesquelles les chercheurs travaillent dès aujourd'hui. Ça rend d'autant plus contradictoire, lorsqu'on est dans la position des écologistes et des décroissants, de dénoncer comme ils le font ces recherches qui se mènent au nom de la lutte contre ce qu'ils appellent la technoscience. Les associations décroissantes organisent par exemple des manifestations régulières contre le gouffre à milliards que représenterait le projet ITER de Cadarache, qui pourrait, d'ici 20 ans, aboutir à des découvertes décisives en matière de fusion de l'hydrogène. Gouffre à milliards, mais le budget d'ITER est au contraire ridiculement petit. 10 milliards d'euros sur 45 ans, soit environ 220 millions d'euros par an. Pour donner un ordre d'idée, il suffit de dire que ces 10 milliards représentent 1/120 des dépenses d'armement mondiales sur une seule année en 2007. Ce n'est pas en réalité les dépenses occasionnées qui choquent les décroissants. C'est que l'on tente d'apporter une réponse scientifique à la crise énergétique. Et leur raisonnement est exactement le même en matière d'agriculture. Les décroissants constatent comme nous qu'une partie effroyablement importante de l'humanité n'a pas de quoi manger de façon suffisante. Mais ils rejettent les solutions techniques pour résoudre cette crise. L'agriculture moderne, on l'a vu, l'usage des machines, des engrais, de la sélection des semences, permettent des rendements qui pourraient, dès aujourd'hui, nourrir bien plus que les 6,5 milliards d'êtres humains qui peuplent la Terre. C'est ainsi que dans les pays riches, une population agricole qui représente moins de 5% de la population totale a largement les moyens de nourrir le pays entier. Mais au lieu de préconiser l'extension de ces techniques à l'ensemble de la planète, eh bien les décroissants proposent tout le contraire, c'est-à-dire d'y renoncer, y compris dans les pays riches. On sait évidemment que l'agriculture mécanisée, aujourd'hui sous le capitalisme, n'est pas à la portée des paysans pauvres du tiers-monde, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter autre chose que des outils littéralement préhistoriques. L'agronome Marcel Mazoyer a calculé qu'un cultivateur manuel, en Afrique par exemple, tire si peu de bénéfices de son exploitation qu'il lui faudrait 33 années de travail pour acheter une paire de bœufs et un attelage, 300 années de travail pour acheter un tracteur et 3000 années de travail pour acheter une moissonneuse-batteuse. Eh bien, c'est à cela qu'il faut s'attaquer, plutôt que de prétendre que la solution pour l'humanité serait ni plus ni moins que la suppression de l'agriculture intensive au profit de l'agriculture biologique. En réalité, l'agriculture biologique, c'est-à-dire sans ajout d'intrants chimiques, ne peut pas offrir des rendements suffisants pour pouvoir espérer nourrir l'humanité. Les études menées sur le sujet le prouvent amplement. Dans le domaine du blé, en France par exemple, le bio a un rendement inférieur de 43% à celui des autres modes. Croit-on vraiment que diminuer les rendements de 43% est la meilleure voie à suivre pour nourrir l'humanité? Après tout, l'agriculture des pays pauvres est déjà, selon les critères écologistes, bio. Il y a encore bien des endroits dans le monde où les paysans cultivent sans machines, sans engrais chimiques, sans pesticides. L'agriculture intensive et mécanisée ne représente aujourd'hui qu'une part infime de l'agriculture mondiale. Seuls 28 millions de paysans dans le monde possèdent un tracteur, soit 1,8% du total. 200 millions, soit 13%, utilisent la traction animale. Et 1,3 milliard, soit les 85% restants, n'utilisent tout simplement que leurs bras et leurs jambes. Mais comment peut-on oser se réjouir d'une telle situation et espérer qu'elle perdure, plutôt qu'attendre et préparer une révolution sociale qui vienne bouleverser les rapports de production et arrache enfin ce 1,5 milliard de paysans à la misère ?
Sur l'exploitation et la domination, écrit Paul Ariès, le travail est à fuir.
fuir. Fuir le travail. Cela ne peut signifier, dans la société actuelle, que deux solutions. Ou bien se retirer de la société et vivre en communauté où l'on travaillera librement, ou bien vivre du travail des autres. Et certains décroissants assument très tranquillement cette solution. Il n'y a qu'à voir, pour s'en convaincre, le succès qu'a rencontré dans ce milieu le film récent de Pierre Carle qui s'appelait « Attention, danger, travail ». Ce documentaire montre des personnages qui ont abandonné le circuit du travail et qui expérimentent la fameuse frugalité volontaire en vivant du RMI. Le seul problème étant que le RMI, comme toutes les prestations sociales, est financé par l'argent public, c'est-à-dire par le fruit du travail de millions d'autres travailleurs. Les militants présentés dans ce film ne vivent pas en dehors de la société. Ils se nourrissent, vont au cinéma, empruntent les transports collectifs, c'est-à-dire, là encore, se servent du travail des autres en estimant apparemment qu'il n'y a rien de choquant à ne pas apporter, eux, leur quote-part au travail social. Cette situation qui est vécue si douloureusement par des millions de chômeurs qui, eux, ne demanderaient pas mieux que de travailler pour pouvoir vivre dignement, est pour ces décroissants un choix qu'ils assument et dont ils se vantent, allant, comme un personnage du film, jusqu'à remercier leur patron de les avoir mis à la porte, ce qui leur a permis de découvrir ce qu'ils appellent la vraie vie. Eh bien, une fois de plus, nous sommes à 100 lieues des décroissants sur ce terrain. Nous ne glorifions pas le parasitisme social, même si nous ne mettons pas sur le même terrain les exploiteurs et les chômeurs volontaires que les décroissants portent au nu. Nous nous adressons à ceux qui travaillent, à ceux qui sont utiles à la société, à ceux qui se servent de leurs bras ou de leur tête pour produire quelque chose. Le communisme, c'est une doctrine qui se donne pour but l'émancipation du prolétariat, c'est-à-dire de la classe sociale qui travaille, et cela ne consiste pas à prôner la débrouille individuelle sur le dos des autres. Au risque peut-être de choquer certains, nous rappellerons qu'une des devises de la révolution russe était « qui ne travaille pas, ne mange pas », et nous assumons pleinement cet héritage. Nous sommes partisans. Nous sommes partisans d'une société où tout le monde travaille en fonction de ses capacités, où tout le monde participe aux tâches sociales. Dans une société débarrassée du capitalisme, le travail sera partagé entre tous et l'humanité œuvrera à utiliser la technique, les machines, les robots pour diminuer peu à peu le travail pénible, les tâches les plus ingrates, en espérant même qu'un jour, ce travail-là disparaîtra complètement et que l'humanité pourra tout entière se consacrer aux sciences, à l'art, aux loisirs et à la culture. Alors, l'humanité aura gagné le droit à la paresse, comme l'appelait le communiste Paul Lafargue. Mais revendiquer aujourd'hui, dans le cadre du capitalisme, ce droit à la paresse, comme le font les décroissants, c'est entériner l'idée qu'il est normal qu'il y en ait qui balayent les rues pendant que d'autres se cultivent. Eh bien, camarades, ce ne sont pas nos idées.